Bonjour à tous. Avant de commencer, là, pendant le moment de prière, je pensais vous dire une petite parole comme ça. C'est que pour moi, c'est agréable de travailler dans une église comme ici, où il n'y a pas de conflit, où il y a une certaine liberté. Et en voyant Florine présider tout ça, je me suis dit qu'on a de la chance d'avoir cette liberté parce que ça donne à chacun de pouvoir mettre en pratique ses dons et tout. Et vous savez que je passe dans beaucoup d'églises comme ça. Et vraiment, je vois, quand on a cette liberté en Christ, il y a une plus grande joie dans l'église. Parce que chacun arrive à trouver sa place. Hein? Et vous savez que j'ai très longtemps dans une église en Alsace où le frère Pascal maintenant a pris le relais. Et j'ai eu une grande joie les derniers temps. C'est qu'avant là-bas, la femme n'avait pas le droit à la parole. Je me rappelle d'un coup d'avoir appelé deux sœurs pour distribuer la scène. Hein. Et ben, je peux vous dire qu'à la fin, l'ancienne est venue me voir pour me remonter les bretelles. Ah, Jean-Pierre, t'as demandé à deux sœurs de distribuer la scène et tout. J'ai même pas demandé de prier. Je trouvais ça frustrant de se priver d'une partie des dons de l'Église. Et là, j'ai eu la grande joie de savoir qu'il y a eu un enseignement sur la place de la femme dans l'Église qui était programmée depuis au moins 2 ans. Et après cet enseignement, à l'Assemblée Générale, il a été décidé que l'Église pouvait au moins inviter une femme pour prêcher. Alors je me suis dit, c'est un pas vers la liberté, puisque vous savez que je vous fais une série de prêches sur l'Épître aux Galates, où il est beaucoup question de cette liberté. Et vous voyez que quand on est entré dans un système de légaliste, de tradition et tout ça, qu'on pense qu'un chrétien doit avoir un certain comportement pour être un bon chrétien, on se prive de certaines choses, et il faut beaucoup de temps pour changer des mentalités qui sont installées. Et donc pour moi, je vous assure que j'ai bien de la joie à travailler avec vous, et dans les différentes choses que je fais, que ce soit au culte, avec le fameux groupe des putois. Hier, on a eu un très bon groupe avec une discussion animée. Mais c'est aussi la joie de faire les études. Hein, Pierrot, les très grandes études et les tout petits repas que nous faisons après. Qui nous font rentrer très tard à la maison. Voilà, j'avais envie de vous exprimer ma joie, tout simplement. Je vous invite, avant de lire notre passage, à encore prier. Pour demander encore la grâce de Dieu. Seigneur, je veux encore te remercier parce que nous sommes aussi dans un pays libre où on peut se réunir librement sans avoir la crainte des autorités. Nous voulons d'abord te remercier pour cela, te remercier qu'on peut encore prêcher ta parole, Seigneur, et que chaque dimanche on peut se réunir ensemble pour t'apporter le culte, pour t'apporter l'adoration et nous mettre à l'écoute de ta parole. Je te prie encore de me conduire dans cette prédication, d'ouvrir aussi notre cœur et que ton esprit laisse dans nos cœurs ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons vraiment compter sur toi, Seigneur, et encore te dire que nous t'aimons. Et nous te remercions encore pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix, cette œuvre qui nous rassemble ce matin. Amen. Voilà, je vous invite donc à lire un passage dans la lettre aux Galates, au chapitre 5, nous lirons les 15 premiers versets. Galates, chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois que tout homme qui se fait circoncire est tenu de pratiquer toute la loi. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous pourriez bien, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai cette confiance en vous dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en portera la peine. Pour moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Le scandale de la croix est donc aboli. Puisse-t-il être retranché ceux qui mettent le trouble parmi vous? Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour, serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alors une question qu'on peut se poser suite à ce passage de la lettre aux Galates, c'est: est-ce que la religion évangélique existe? Et si oui, est-ce qu'elle est dangereuse? Et donc, vous savez, pour bien comprendre cette lettre aux Galates, il faut vraiment se replacer dans le contexte. Vous savez que dans Acte 15, on voit ce qu'on appelle le Concile de Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y aura un grand rassemblement où l'apôtre Paul va venir pour défendre le fait qu'on est sauvé par la foi seul. Alors qu'il y avait tout un groupe de gens, donc des chrétiens qu'on appelle judaïsants, donc issus du judaïsme, qui disaient, ben non, les païens, il faut les circoncire, car ils ne peuvent pas être sauvés s'ils ne se font pas circoncire et n'observent pas la loi. Et donc il y a eu tout un rassemblement, toute une discussion. Donc on est là avec cette lettre au début de l'histoire de l'Église. Le Nouveau Testament n'est pas écrit, les judaïsants rentrent dans les églises, sèment leur doctrine, et on peut penser que le concile n'a encore pas eu lieu, puisque l'apôtre Paul n'en fait aucune allusion dans la lettre. Alors que si le concile avait eu lieu, vu qu'il a reçu des lettres et tout, qui lui donnait une certaine autorité, il en parlerait certainement dans cette lettre. Et donc vous voyez que très tôt dans l'histoire de l'Église, les gens avaient semé le trouble, avaient amené un certain légalisme dans l'Église et voulaient attirer les gens vers eux. Et l'apôtre Paul diront que s'ils veulent faire ça, c'est uniquement pour leur propre gloire, pour être glorifiés dans votre chair. Les judaïsants sont des croyants issus bien souvent de cette secte qu'on appelait donc les pharisiens. Et les pharisiens étaient ceux qui mettaient le plus fort accent sur l'observation de la loi, et surtout sur les choses qui étaient visibles. Quand vous lisez l'Évangile, vous voyez qu'il y a beaucoup de conflits entre Jésus et les pharisiens, qui se passent souvent le jour du sabbat, parce que le comportement de Jésus va déranger ces gens, parce que Jésus, lui, ne se soumet pas à la loi comme eux la comprenaient, et surtout aux traditions et à tout ce qu'ils ont rajouté. Alors, il va souvent entrer en conflit avec eux. Jésus leur fera le principal reproche, c'est d'avoir étouffé dans la loi l'amour, qui est au centre de la loi. Il dira, vous avez fait toutes les choses autour, mais finalement vous avez étouffé le principal, qui est l'amour. Vous avez vu que là, l'apôtre Paul dit que la loi se résume par cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans 1 Corinthiens 13, il rappellera que tout ce qu'on fait dans l'Église, même de livrer son corps pour être immolé, si ce n'est pas motivé par l'amour, ça ne sert à rien. En ce qui les concerne, ces pharisiens qui se sont convertis, qui sont venus à Jésus, on peut essayer de se mettre à leur place et se dire que ça ne devait pas être évident de se dire qu'on est justifié par la foi seule et que toute la loi passée ne servait à rien. C'est pas que toute la loi ne servait à rien, mais en tout cas tout ce qui concernait les sacrifices et beaucoup de règles et d'observations ne servait à rien pour être justifié. Et Hein, en se mettant à leur place, c'est vrai que ça ne devait pas être facile. Rappelez-vous les difficultés que Pierre aura à aller chez Corneille annoncer l'Évangile. Hein, on ne change pas une culture, une manière de penser comme ça, même si on vient de recevoir l'Esprit de Dieu. Et les premiers chrétiens vont surtout évangéliser les Juifs. Hein, et premier, dans les débuts du livre des Actes, c'est les Juifs qui sont évangélisés. Et il faudra une persécution pour que les chrétiens sortent de Jérusalem. Et rappelez-vous que quand Pierre va aller voir Corneille, hein, après que Dieu ait opéré plusieurs miracles pour lui montrer, lui, le salut est aussi pour les païens, quand il va revenir, il va falloir qu'il s'explique après tout un chapitre qui est écrit pour voir, pour montrer comment Pierre a dû se justifier d'avoir été chez Corneille. La conférence de Jérusalem, donc, est-ce qu'il faut circoncire les païens ou pas? Est-ce qu'on est sauvé par la foi uniquement? Cette conférence a certainement évité que l'Église se divise. Il y aurait très bien pu avoir une Église composée de juifs convertis et une Église de païens. Donc cette conférence, vous voyez, cette discussion qui a certainement duré plusieurs jours a évité qu'il y ait une division dès le départ. Donc vous voyez que quand l'apôtre Paul écrit dans Galates, je ne sais pas si vous êtes amusé à la rire, mais il y a des passages, là, vous avez entendu, c'est quand il dit « vous êtes déchus de la grâce », tout ça, il y a des expressions très fortes. Mais l'apôtre Paul est conscient de l'enjeu. Si on laisse rentrer cette doctrine dans l'Église, l'Église va démarrer et il va avoir tout de suite deux branches. Paul, c'est vrai, il met un fort accent dans sa prédication sur la justification par la foi seule, alors que lui-même est d'origine juive. Et donc il la connaît très bien, cette loi. Et il était un pharisien. Il dira qu'il a été élevé au pied de Gamaliel, qui lui-même, Gamaliel, a été élevé au pied d'un juif qu'on appelait, je crois, je ne me rappelle plus exactement, c'est Hillel, je crois, qui était un juif très connu, qui avait une très grande connaissance, donc l'apôtre Paul. Il la connaît bien, cette loi. Et pourtant, il va être le prédicateur. On est sauvé par la foi. Certains diront que c'est le prédicateur de la grâce. Est-ce que Paul a renié ses convictions? Pas du tout. Mais il a bien compris le plan du salut. Et que tout ce qui était dans l'Ancien Testament des lois arrive à la croix de Jésus-Christ. Mais une fois que tout est accompli à la croix, il y a des choses dans la loi qui tombent, qu'on n'a plus besoin. Il n'y a plus besoin de l'observation de cette loi pour être justifié. Alors pour nous aujourd'hui, on peut se poser cette question. N'y a-t-il pas un danger qui guette chaque enfant de Dieu, chaque assemblée, à glisser doucement vers ce que j'ai appelé la religion évangélique? On glisse, vous voyez, tout doucement dans cette religion évangélique, on commence à se mettre un peu des lois, plutôt que de rester attaché à Christ et à vivre dans cette liberté qu'il nous a acquis à la croix. On peut se poser la question, est-ce que le danger de vouloir vivre sous la loi est écarté parce que finalement il n'y a plus de juifs dans nos églises? Bon, il y a des églises de juifs messianiques, mais dans nos églises à nous, généralement, on est tous issus du païen. Hein, je ne vais pas dire qu'on a tous une vie catastrophique, mais on est tous issus du paganisme d'une manière générale et on arrive à la conversion, on n'a pas tout le passé d'un juif avec la loi et toutes ces choses. Alors, est-ce qu'on pourrait dire finalement, il n'y a plus de danger maintenant? Je vous laisse répondre à la question. Hein. Mais la question derrière que je me suis posée, c'est pourquoi? Pourquoi après avoir reçu le salut gratuit de Dieu, pourquoi certains éprouvent le besoin de pratiquer une religion évangélique? C'est un peu la question que John Stott pose dans son commentaire. Il y en a peut-être une réponse dans notre texte, parce que pour les chrétiens d'origine juive, pour eux, vous ne pouvez pas être sauvés si vous ne vous faites pas circoncire. Le besoin de pratiquer une religion évangélique se serait peut-être basé sur la peur de ne pas être pleinement justifié. Et il y aurait comme une sorte de désir de vouloir rajouter quelque chose à l'œuvre de Christ. C'est-à-dire, oui, je suis sauvé par l'œuvre de Christ, mais enfin, pour en être pleinement assuré, je vais quand même observer certaines choses. Vous voyez, c'est ce désir de voir compléter l'œuvre de Christ. Alors que Paul va rappeler clairement plusieurs fois dans cette lettre et dans d'autres, qu'une fois que nous sommes justifiés par la foi, et donc que nous sommes libres, totalement libres à l'égard de la loi. Et il n'y a donc pas besoin de circoncision à cette époque-là pour les Juifs, car Christ nous a acquis la liberté par son œuvre sur la croix. Mais pour nous aujourd'hui, nous n'avons pas besoin de rajouter des choses pour être justifiés. On peut vraiment avoir la paix. Notez qu'un peu plus loin, il dira, c'est pas parce que nous sommes maintenant libérés qu'on doit vivre selon la chair. Il n'invite pas les gens à vivre n'importe comment, c'est pas son but. Hein. Et un chrétien peut se lever tous les matins en disant, merci Seigneur, parce que je sais que je suis sauvé. Et non pas en disant, Seigneur, permets-moi d'avoir une vie très bien, qui fasse que quand je me couche le soir, je puisse dire, ouf, je suis sauvé avec tout ce que j'ai fait. John Stott dira que notre conscience est libérée de la culpabilité du péché. Nous sommes libérés de l'obligation d'observer la loi ou les traditions qu'on peut mettre en place dans nos églises. Je rappelle que l'apôtre Paul a déjà montré dans cette lettre que la loi était comme un pédagogue qui nous a amenés à Christ. Voilà le premier but de la loi, nous amener à Christ. Je pense personnellement que ça soit pour les Galates ou pour les religieux évangéliques aujourd'hui, je suis convaincu qu'ils ne nient pas l'œuvre de Christ sur la croix. Ils ne nient pas l'œuvre de Christ sur la croix. Ils ne nient pas que Jésus est le Messie. Et il n'y a pas dans cette lettre de passage où les chrétiens d'origine juive demanderaient d'abandonner le salut en Christ en disant non, ça ne va pas, il faut vraiment accomplir la loi parce que vous n'allez pas être sauvés. Ils ne nient pas ça. Ils ne nient pas que Jésus n'accomplit pas les Écritures. Mais ce qu'ils font, c'est qu'ils veulent rajouter. Oui, vous êtes sauvés par la foi, mais vous devez quand même pratiquer la loi. Vous devez vous faire circoncire, vous devez observer la loi. Comme si le salut en Christ n'était pas parfait. Comme si le jour que Jésus a dit tout est accompli, en fait, il serait trompé, quoi. Il aurait comme ouvert un chemin sur lequel il faudrait marcher en obéissant et on serait sauvé à la fin. L'apôtre Paul dira que chez ces chrétiens d'origine juive, il y a un vrai désir de gloire. Ils veulent se glorifier dans la chair des autres. On retrouve un peu l'esprit des pharisiens qui se sont opposés à Jésus. Jésus leur fera une fois le reproche pour leur manière, comment on peut parler ainsi. Vous qui cherchez votre gloire les uns envers les autres. Hein, vous cherchez à tirer votre gloire des hommes et vous ne cherchez pas la gloire de Dieu. Et ils avaient tellement, ces pharisiens, la soif de la gloire des hommes. Il y a un passage, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, qui disent qu'ils vont rendre caduc le dessein de Dieu à leur égard. Tellement qu'ils étaient attachés à cette gloire des hommes. La pratique de la religion évangélique qui veut rajouter des choses à l'œuvre de Christ rabaisse l'œuvre de Christ. On pourrait dire que quand on fait quelque chose en pensant « je vais être sauvé », mais il faut dire « attention, quel bon chrétien engagé je suis, regarde toutes les bonnes œuvres que je fais et tout, hein, c'est pas normal que je sois sauvé », alors quelque part, on dépouille Christ de sa gloire. On fait de l'ombre à la croix de Jésus-Christ. Faisons attention de ne pas oublier le « Tout est accompli ». Si je me mets à pratiquer la religion évangélique, ou si je deviens, si vous voulez, en autre terme, un peu légaliste, est-ce que je perds mon salut? Parce que les paroles de l'apôtre Paul sont fortes. Vous êtes déchus de la grâce. Alors vous vous amuserez à regarder dans des commentaires tout ce qui est dit là-dessus, et je vais vous dire qu'il y a une paire de poches. Est-ce qu'on peut perdre son salut parce que on a commencé à mener une vie un peu légaliste, à se placer sous la loi et à pratiquer la religion évangélique? C'est un passage qui a fait couler de l'encre et qui a fait transpirer Jean-Pierre sur ce texte. Parce que je me suis dit, ça ne va pas sortir une bêtise Jean-Pierre dans la prêche. Non, c'est ma manière de comprendre. Certains chrétiens vont dire que on ne peut pas perdre son salut. Donc ici, Paul s'adresse forcément à des chrétiens, mais qui ne sont pas chrétiens. Vous voyez, les gens, ils sont à l'église, ils pratiquent, ils pratiquent et tout, mais en fait, ils ne sont pas convertis. Le problème, c'est que Paul ne fait pas allusion à des gens qui seraient dans l'église et qui ne seraient pas convertis. Il n'y a aucune parole qui va dans ce sens, il n'y a aucune allusion. D'autres diront, non, ce sont bien des chrétiens. Et donc Paul enseigne que s'ils cherchent leur justification dans la loi, ils perdent leur salut. Le problème, c'est que l'expression « perdre le salut », on la trouve combien de fois dans l'Écriture, vous le savez? Vous savez pas? Les jeunes là-bas, vous lisez votre Bible? Ah, il y en a un qui a fait signe, zéro. Zéro fois. Je peux vous dire qu'après avoir fait l'Institut biblique, on a discuté des centaines d'heures sur ce sujet, enfin j'exagère peut-être un peu, mais vous savez qu'on dit zéro fois. Je pense qu'il faut faire juste une petite parenthèse avant de chercher à comprendre ce texte. Toute personne qui lit la Bible avec des lunettes théologiques. Quel que soit son niveau, on a forcément une paire de lunettes sur le nez quand on lit la Bible. Hein? Et toute votre culture, votre arrière-plan, tout ça est dans les lunettes, et tout l'enseignement théologique qu'on vous a donné dans votre église est dans vos lunettes. Donc quand vous lisez la Bible, vous la lisez avec vos lunettes. Personne n'a une lecture, j'ai envie de dire, pure de la Bible. Elle est toujours influencée. Dans le texte qui nous intéresse, on peut donc mettre ses lunettes. Et si on est de ceux qui mettent les lunettes, un chrétien peut perdre son salut, forcément, je trouve un appui dans ce texte. Mais si je suis du chrétien qui dit « on ne peut pas perdre de salut », eh ben, je vais essayer de changer un peu le texte, de le comprendre d'une autre manière. Moi, je dis que parfois, à cause des lunettes théologiques, et ça, vous liriez des commentaires régulièrement, vous verriez que ce que je vais vous dire est vrai, à cause de nos lunettes théologiques, on arrive à être des malhonnêtes intellectuels. Comprenez ? Hein ? Il y a le texte qui va dans telle direction, et comme ma théologie, elle va en général dans telle direction, alors je vais tordre le texte pour l'amener dans ma manière de penser. Et ça, il faut vraiment faire attention. Je pense que notre théologie devrait être comme un vase sur le tour d'un potier. Elle devrait toujours travailler. Elle devrait toujours évoluer. Je n'ai pas dit qu'on devrait changer régulièrement nos bases théologiques, des choses fondamentales, mais on devrait avoir une théologie assez souple pour qu'elle puisse être modifiée au fur et à mesure que notre connaissance de Christ et de sa parole augmente. Et on devrait avoir assez d'humilité pour reconnaître que nous ne savons pas tout et que les autres peuvent aussi nous apporter. Alors dans ce texte, je ne pense pas que Paul parle ici de perdre ou de ne pas perdre le salut. Je pense que la question n'est pas mauvaise. Déjà, l'expression n'est pas employée. Et s'il y avait une question de perdre le salut, je crois qu'il l'aurait dit d'une manière beaucoup plus claire et qu'on retrouverait d'autres passages dans le Nouveau Testament. Voilà comment je comprends l'ensemble du passage, car l'expression est à prendre dans l'ensemble du passage, même dans l'ensemble de la lettre. C'est que vouloir observer la loi ce n'est plus vivre sous le régime de la grâce. C'est pas un abandon de la foi en Christ qui sauve, c'est vouloir observer la loi pour être plus juste, pour pouvoir mener une vie après notre conversion qui soit plus conforme à la loi de Dieu. Et je pense que l'apôtre Paul est en train de dire au mieux de rester chaque jour de votre vie sous la grâce, vous êtes en train de vous retirer doucement et de vous placer sous la loi. Vous voyez, c'est simplement ça, c'est votre manière de vivre chaque jour doit être placée sous la grâce. C'est tous les jours la grâce de Dieu. C'est tous les jours que je peux obtenir le pardon. C'est tous les jours que je peux venir implorer mon Seigneur. C'est tous les jours que j'ai besoin de cette grâce pour vivre. Et si je commence à me retirer de ça, alors, à mettre ma confiance en moi et tout, ben je suis un peu déchu de la grâce. C'est comme si au lieu d'être sous la douche de la grâce, je me plaçais sous la douche de la loi, bêtement. Et je me prive de cette grâce abondante. Abondante. La grâce, c'est pas simplement le jour de la conversion. Yves Garret de l'église de la Morlaix, que certains connaissent, était mon prof à l'Institut biblique, et m'a dit, Jean-Pierre, quand tu seras dans l'église, tu feras souvent que tu prêches la grâce. Parce qu'il m'a dit, tu verras, les évangéliques, on est très forts pour annoncer le salut et dire, vous êtes sauvés par grâce, et quand les gens rentrent dans l'église, eh ben, c'est plus fort que nous, on les place sous nos 10 commandements. Et il m'a dit, voilà, on annonce la grâce, et après on dit aux gens, vous devez vivre selon nos 10 commandements. Il m'a dit ça il y a plus de 20 ans et ça m'a marqué. Vous savez, une mauvaise compréhension de la justification par la foi, de vivre sous la grâce chaque jour, peut venir simplement d'un enseignement mauvais qu'on a reçu, soit à la maison, soit à l'église. N'oublions pas que nous, les parents ou grands-parents, on est des modèles pour les générations en dessous de nous. Et si nous voyons vivre d'une manière très légaliste, évidemment, ça va être imprégnant en eux d'une manière tout à fait naturelle. Hein? Et si à l'église, le pasteur est quelqu'un d'aussi un peu carré et légaliste, ben voilà, la personne va être forgée. Et une fois qu'on a été forgé dans une certaine manière de penser, pour en sortir, c'est quelque chose de long et de difficile. La religion évangélique existe-t-elle ? Oui ou non ? Oui. Ah. Et je ne juge pas les frères qui sont comme ça. Hein. Je me suis battu à NCSN pour les sortir de là. Hein. Et Pascal a pris le relais. Oui. Mais quand je vous dis que pour changer une mentalité qui s'est installée quelque part, et c'est dur, hein. Et vous avez l'impression de parler parfois des gens qui... Alors quand je suis arrivé à NCSN, avec la liberté que j'ai, c'est vrai, j'en ai choqué peut-être quelques-uns, mais... Il y a bien sûr des dangers à glisser dans cette religion évangélique, mais quand on glisse dans la religion évangélique, ça montre aussi que chez la personne, il y a des peurs, il y a des manques d'assurance, il y a une mauvaise compréhension de l'écriture. On n'est pas différent des Galates, le cœur de l'homme ne change pas, et il y a toujours en nous un pharisien qui dort, et qui est prêt à nous enchaîner à la loi, qui est prêt à nous amener à Moïse en nous séparant de Christ. Un pharisien a peut-être du mal à comprendre un chrétien libre et peut parfois être choqué par son comportement. Et le but du chrétien libre n'est pas de choquer le pharisien, mais de l'amener à vivre dans la liberté. Ce qui est beau avec l'apôtre Paul, c'est qu'avec cette église de Galates, ça a dû le faire suer. Je vous ai dit, Galates, c'est pas juste une église, hein, c'est toute une région. Hein. Et lui, qui a travaillé là-dedans, qui a amené l'évangile, qui a vu des conversions, des tas de choses, et qui voit ces gens retourner vers l'ouest, ça a dû être dur pour lui. Mais ce que je trouve beau, il a pas coupé le contact. Il a écrit, et il fera encore des voyages, il enverra encore des gens pour ramener ces gens dans la vérité. Il a pas coupé le contact. Il n'a pas dit, puisque vous voulez vous mettre sur la loi, eh bien allez-y, vous me fatiguez, il y a encore bien du travail ailleurs. J'aimerais terminer en disant Je suis convaincu qu'on peut être chrétien et devenir un religieux, mais je suis aussi convaincu qu'on peut être un religieux et revenir sous le régime de la grâce. Et je suis convaincu, tout comme l'apôtre Paul l'était pour les gens de Galatie, qu'un chrétien n'a pas à se priver de la grâce de Dieu. Et il dit dans l'Épître aux Hébreux, « Veillez les uns sur les autres, afin que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Et frères et sœurs, j'aimerais vous rappeler, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Amen. Je vous invite encore à un moment de silence et de prière. Merci Seigneur que tu nous as libérés de l'esclavage du péché, de l'esclavage de la loi. Merci que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et dans ta grâce Seigneur, donne-nous de marcher fidèlement à ta suite, d'avoir une vie qui te glorifie et que par nos vies nous puissions rendre jaloux les gens qui vivent autour de nous, qu'ils puissent se rendre compte que nous avons quelque chose de plus dans nos vies. Merci encore pour cette assemblée que je te prie de bénir. Je te prie que tu nous renouvelles dans notre vision pour l'Église, que tu encourages chaque frère et sœur et que tu nous donnes à chacun de marcher dans la liberté, Seigneur. Amen.